Vous m'en direz des nouvelles au Festival d'Avignon.
Jean-François Cadet.
Bonjour, bonsoir. La musique et le chant ont toute leur place au Festival d'Avignon. Pas de représentation du hymne sans entendre quelques minutes avant les célèbres trompettes de Maurice Jarre. Dans beaucoup de spectacles, la musique sert de porte d'entrée ou de sortie. Elle peut instiller une atmosphère, accompagner les changements de décor. Elle participe aussi souvent à la dramaturgie. Et dans les trois spectacles dont nous allons parler aujourd'hui, elle est tout simplement essentielle car elle raconte des histoires. Le hip-hop et le beatbox peuvent ainsi accompagner la grande histoire, celle de la Guinée des années du régime de Sékou Touré. Nous parlerons aussi des fables de La Fontaine en version lyrique, d'autant plus que le poète aurait fêté aujourd'hui ses 400 ans. Mais pour commencer, entrons dans la danse avec Rosalba Torres Guerrero et Koen Augustijnen de la compagnie Saïmez, la compagnie qui présente aujourd'hui, donc à Avignon, 9 danseurs pour nous présenter l'Amenta dans la cour minérale de l'Université d'Avignon. Et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Rosalba Torres Guerrero.
Bonjour.
Bonjour Koen Augustijnen.
Bonjour.
Le point de départ de ce spectacle, c'est une danse traditionnelle grecque, le miroloi. On dit les mirolia au pluriel, je crois. Comment est-ce que vous avez découvert cette danse?
En fait, les miroloi, ce sont des chansons de lamentation qui sont chantées partout en Grèce. Et dans certaines régions, ils dansent aussi sur ça. On est pire parce que le miroloi que tu as juste entendu, il est des pires. Toute la musique vient des pires.
Donc c'est la région de l'Épire qui est du nord-ouest de la Grèce. Région assez montagneuse, assez rurale.
Voilà, à côté d'Albanie. Donc nous on a choisi des musiques de là-bas, seulement des pires. Mais en Épire, ils ne dansent pas sur le miroloi. Parfois ils font ça. Sur les fêtes, ils le font, mais pas pendant le funéral. Parce que les miroloi, ce sont des chansons de lamentation qui aident à gérer la perte, en fait. Donc, ils ont chanté ou joué instrumental, parce que les choses qu'on a juste entendues, c'est un miroloi qui est instrumental. Mais souvent, c'est chanté aussi. En Épire, c'est aussi chanté polyphonique, a cappella. Mais en Épire, ces miroloi, ils ont chanté pendant des funérailles. Ou pour un mariage, parce que c'est la drame, il y a quelqu'un qui part de famille, quand il y a des gens qui partent en exil, qui vont émigrer, et puis aussi des gens qui sont... Bon, c'était une région qui était longtemps occupée par les Ottomans, les Allemands étaient là, plein de gens étaient là, donc parfois les filles et les fils étaient pris pour les armées où ils étaient tués. Donc il était beaucoup de résistance là aussi.
Donc c'est le chant des départs, d'une certaine façon, quel que soit le départ.
Voilà. Et donc savoir avec la perte, la deuil. Et puis ça aide aussi à les gens qui restent là, de continuer d'exprimer leur tristesse, leur frustration, etc.
Et vous avez vous-même assisté justement à ces cérémonies, à ces fêtes de village?
Oui, à un moment, j'étais invité en Épire par un danseur que j'ai rencontré en Crète, en fait. Et il disait, ma femme, Xantoula Dakouvanou, elle est chanteuse, elle a un festival, Kerasavos, qui est un petit village en Épire, dans la montagne. Elle a un festival là où elle donne des cours de chant et de percussion, violon, etc. Donc j'étais là et elle m'a amené à des fêtes. Et parfois... c'est en août, donc c'est la fête des saints. Et puis, parfois, ils commencent les fêtes, le panieri, avec un mirolo. Ils disent, ah, je joue encore un morceau, par exemple la mariola qu'on utilise au début du spectacle pour Marie qui est décédée l'année passée. Donc, ils commencent parfois les fêtes avec un mirolo. Et là, ils dansent. Hein. Et puis, c'est les gens les plus âgés qui commencent la danse. Et puis après, les jeunes, ils arrivent. Ouais.
Salvatore Guerrero, est-ce qu'on peut comparer, selon vous, le miroloï au blues ?
Alors, moi, je ne suis pas musicologue, mais je suis une âme qui écoute. Et oui, effectivement, il y a un petit côté qui est blues, le blues des Balkans, oui, absolument.
On n'est pas très loin de l'Albanie, hein, comme disait Costello tout à l'heure.
Absolument.
Avec des basses percussives quand même qui sont très très prononcées, hein, un rythme lancinant. Alors, il y a un côté très très plaintif. Hein, on entend en particulier dans le spectacle la clarinette, on entend le violon aussi, le luth et puis quelque chose de très tellurique aussi. Hein, c'est une musique qui parle de la terre, qui parle des racines.
Certainement. Moi, je sens vraiment la montagne. J'ai beaucoup promené là-bas et je sens dans cette musique presque les pas que je faisais quand je monte une colline ou une montagne. Et il y a aussi quelque chose qui nous a attiré beaucoup, il y a quelque chose de viscéral aussi. Il y a la connexion avec la terre, c'est assez lourd. Souvent les rythmes sont lentement et puis pendant la fête ça s'accélère. Et bon, après ils vont de nouveau lentement. J'étais à un moment sur un fête et c'était des jeunes musiciens, mais ils jouaient des choses traditionnelles, mais avec des guitares acoustiques et tout. Et ils avaient un groove un peu de rock. Et en fait, ils ont dit, ah, mais en fait, c'est un groupe de post-rock qui est assez connu et qui joue des morceaux traditionnels, des miroloi même, mais avec des guitares électriques et des basses et tout, et des drums. Moi, je l'ai vu acoustique, mais il était 200 personnes autour qui dansaient parfois et s'accéléraient, ça allait très, très, très vite. Parfois, ça ralentit jusqu'à qu'ils étaient sur le sol. Et après, ça a repris. À 5 heures du matin, je suis allé dormir et eux, ils ont encore continué. Donc, il y a quelque chose qui... Il était pas mal d'alcool aussi, là.
Oui.
Et Tsiporo, c'est une sorte d'eau de vie des pires, qui est très bien. Et puis, voilà.
À consommer avec modération, évidemment, comme on dit en France. Vous vous êtes emparés, donc, tous les deux de ce terreau, de ce matériau culturel traditionnel de cette région, pour en faire un spectacle de danse contemporaine, qui plus est dans un festival international comme celui d'Avignon. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, de la tradition au spectacle de danse contemporaine?
Alors, nous, on a déjà un passé, Koun et moi, où on a déjà travaillé avec de la danse traditionnelle. On a fait un spectacle auparavant avec 10 danseurs palestiniens, où on est parti des danses traditionnelles palestiniennes, la Debke, qui est aussi au Moyen-Orient. Et donc, on a des interprètes d'aujourd'hui. Et donc, les interprètes d'aujourd'hui ont des parcours différents, des influences différentes. Ils viennent de régions différentes, voilà, d'une vie à eux, leur parcours. Et donc, comment est-ce qu'on parle de quelque chose qui, en fait, on l'entend aussi dans la musique, c'est très archaïque. Et comment est-ce qu'on fait dialoguer le passé et le présent, en sachant que c'est aussi des traditions qui, tout doucement, commencent à s'effacer aussi. Et donc, on doit questionner les interprètes qui forment cette petite communauté qui est sur le plateau. Et on n'interroge pas le monde entier, on interroge ces 9 personnes. Et pour comprendre qu'est-ce que ça signifie pour eux, avec leur bagage, leurs différences, leurs richesses, et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de parler de ça à un public. Parce qu'évidemment, nous, on a le besoin de créer un lien avec le public. Donc avec les Palestiniens, par exemple, c'était autour du thème d'un mariage qui est enfermé, c'est-à-dire que personne ne peut sortir. Et ici, la porte d'entrée, c'était la perte, la lamentation. Ce spectacle a été pensé avant la pandémie et il se trouve que je crois que maintenant on a tous vraiment besoin de pouvoir parler de la perte, et parce qu'il n'y a pas eu d'espace pour la vivre. Donc ce spectacle, j'ai envie de dire, arrive à un moment où peut-être les gens en ont besoin. Et donc c'est comment est-ce qu'on prend une énergie qui est présente aujourd'hui dans les corps des interprètes, mais qui sont liés par un fil qui remonte à très 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 loin. Et donc c'est un travail minutieux avec le regard extérieur qu'on a, parce que on est des étrangers. On vient et on s'empare d'une culture qui n'est pas la nôtre. Donc on doit vraiment être prudent, à l'écoute, mais en même temps, on peut se permettre des audaces que quelqu'un qui connaît très bien peut-être n'oserait pas, parce que ça devient trop sacré, alors on ne peut pas toucher. Mais nous, on peut juste dire, bah pourquoi pas ? Et puis le pourquoi pas, dire, ah mais ça c'est quand même intéressant, on peut tirer le fil. Et puis c'est vraiment un travail couche par couche, entre la musique du mouvement, et puis qu'est-ce que raconte ce mouvement ? Comment on le charge de sens et d'émotion ?
VMDN sur RFI à Avignon, autour du spectacle de danse Lamenta, chorégraphié par nos invités Rosalba Torres Guerrero et Kuna Augustainen. Sur le plateau, 9 danseurs et danseuses, tous grecs, forcément.
Certainement.
Pas le choix. C'était.
Oui, ça c'était.
Forcé de commencer par parler d'eux-mêmes, par parler de ce qu'ils avaient en héritage aussi.
Oui, certainement. Ouais.
Donc des femmes, des hommes, 25-40 ans, mais pas tous originaires de cette région de l'Épire.
Non. Il a 2 personnes qui sont d'Épire, et puis il a quelqu'un de Crète, et il a quelqu'un qui vient d'Île, il a quelques gens qui sont autour d'Athènes, mais ils habitent tous en Athènes, c'est un peu la métropole. Hein.
Mais est-ce que dans votre façon de travailler avec eux, il y avait aussi la volonté de créer une communauté, une mini-communauté, justement, pour être au plus près, finalement, de la réalité de la création ?
De toute façon, quand on travaille avec un groupe, il vaut mieux créer une petite communauté. De toute façon, cela va de soi pour qu'il y ait une vraie communication sur le plateau qui puisse toucher un public. Mais comme dit précédemment, oui, effectivement, c'est créer cette communauté et comprendre qu'est-ce que cette communauté a à dire aujourd'hui.
Alors il y a des danses de groupe, alors souvent j'ai l'impression avec un leader qui change, hein, d'ailleurs d'un tableau à l'autre, c'est pas toujours le même, il y a des moments solo mais toujours à l'intérieur du groupe, il n'y a jamais de franche séparation non. Entre les danseurs, il y a une danse de couple aussi, hein, une danse d'amour, même assez sensuelle par certains côtés, on est toujours à l'intérieur du groupe, mais chacun son moment.
Oui, peut-être il faut préciser pour les auditeurs et les auditrices qu'il y a 9 danseurs sur le plateau qui ne sortent jamais. Donc en fait, c'est un spectacle un peu diesel, c'est-à-dire que ça commence très lentement, ça se construit petit à petit, et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Mais donc, ils vont vivre un rituel ensemble. Donc, évidemment, il n'y a pas d'entrée et de sortie. On rentre et on ne sort pas du rituel. On y rentre et on le vit. Donc, en fait, les 9 corps ne sortent pas du plateau et vont faire cette traversée ensemble.
Et c'est avec eux, au plateau, que vous avez construit tous les deux la chorégraphie. Il y a eu un vrai échange entre eux et avec vous.
Oui, bon, nous, on travaille avec des tâches. Bon, on a certaines idées aussi, mais quand même, on travaille avec des tâches où on donne un point de départ. Après, ils improvisent ou ils préparent quelque chose. Et à partir de ça, on travaille. Donc, en fait, dans la base, on a choisi, quand on a fait l'audition, on a demandé qu'on cherchait des danseurs contemporains, mais qui sont en bonne connaissance de la danse traditionnelle aussi. Donc, on le voit quand même comme un spectacle de danse contemporaine, mais qui est très fortement nourri par la danse traditionnelle.
Alors justement, les déplacements, les mouvements ont été inspirés par cette tradition du Miroloï. Par exemple, quand ils se frappent le cœur, quand ils se tapent dans les mains, quand ils battent des pieds, quand ils se jettent par terre, ça vient d'où tout cela?
Nous, on n'a pas la connaissance, je vais le nommer académique. Donc il y a un moment donné, on est dans le studio, on reçoit du matériel, on l'interroge, et puis on le transforme. Donc il y a des bribes de danse, mais d'un peu partout de la Grèce, pas spécifiquement de ce lieu. Et donc, ils sont colorés, ils deviennent hybrides. Ce n'est pas une représentation fidèle des pas traditionnels.
Mais alors, justement, où est-ce qu'on place le curseur? Jusqu'où essayer de ressembler, de se différencier et d'inventer?
Il ne faut pas perdre le cap de l'esprit. L'esprit de la lamentation et garder, l'âme, si on se dévie.
Mais dans la dramaturgie, on avait deux dramaturges, un dramaturge grec, Georgina Kakoudaki, et puis il y a aussi un dramaturge belge, mais qui est depuis longtemps, qui est intéressé à la culture grecque et qui a écrit aussi un livre dernièrement sur la lamentation. Et puis avec eux, on a parlé sur la dramaturgie aussi la dramaturgie de musique, et en fait, les éléments traditionnels sont beaucoup plus présents au début du spectacle. Et petit à petit, il y a la contemporaine qui vient dans la musique traditionnelle. Il y a les guitares électriques qui viennent, le drum, le basse. Et ça devient autre chose.
Oui.
Mais la base...
Il y a quelques pas de hip-hop aussi, d'ailleurs. Certain moment qui, je pense, a dû faire sourire beaucoup de gens. Alors c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose de très triste. Et en fait, pas du tout, quoi. C'est vraiment quelque chose qui, au contraire, redonne de la force, quoi. Et quand on sort du spectacle, on se sent bien, quoi. On se sent heureux, quoi. C'est vraiment une forme de catharsis.
Merci.
C'était le but aussi, parce que Miroloï, ou ces chansons, ou les danses traditionnelles, c'est aussi pour les gens qui restent
en vie
et qui doivent continuer. Donc c'est pour régénérer aussi.
Voilà, dépasser le départ des autres et soi-même se donner un nouveau départ pour continuer à vivre.
Voilà.
Alors pas de musicien dans la cour minérale de l'Université d'Avignon. Un enregistrement a été réalisé à Athènes avec un ensemble constitué spécialement pour le spectacle. Mm-hmm. Et tous grecs, sauf un.
Oui.
Un français d'ailleurs, le chanteur et flûtiste Magic Malik. Pourquoi cette exception? Pourquoi lui? Et qu'est-ce que vous attendiez de lui?
Alors, Magic Malik, moi, je l'ai rencontré sur une production de Alain Platel et on a tourné longtemps ensemble. C'est un musicien et un chanteur exceptionnel et qui a une vieille âme, je pense. Et donc, il peut rentrer avec une énorme facilité dans le langage d'une autre culture musicale et la transcender. Et en fait, comme c'est une musique qui oscille entre la terre et le ciel constamment, que ça soit rythmiquement ou harmoniquement ou dans les variations, on avait besoin, même chose, de quelqu'un qui sent, mais qui n'est pas qui peut se permettre les audaces et qui a une liberté, une sensibilité énorme et qui peut toucher le sacré. Alors lui, il explose tout. Comment vous dire? Quand il arrive, il s'introduit petit à petit dans le spectacle. Et à la fin, il porte, il donne une dimension qui permet, je pense, aux gens aussi de s'élever dans la salle.
Merci beaucoup à tous les deux, Rosalba Torres-Guerrero et Koen Adusteinen. La Manta dans la cour minérale de l'Université d'Avignon. C'est jusqu'au 15 juillet, 22h, relâche le 10 et le CD, je le rappelle, disponible chez Carte de Lune UVM.
La cigale y ont chanté tout l'été, tout l'été. Se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue.
Il a donné la parole à toutes sortes d'animaux, bercé nos souvenirs d'écoliers, mis à l'épreuve nos jeunes mémoires et assagi nos esprits de ses morales implacables. Aujourd'hui, nous commémorons la naissance du plus illustre des fabulistes français, Jean de La Fontaine, né il y a 400 ans, le 8 juillet 1621. Plusieurs compagnies du Festival d'Avignon lui rendent hommage, comme avec ce spectacle jeune public intitulé « Fables, miniatures lyriques ». Fanny Blechner nous en donne un aperçu.
L'odeur alléchée lui teint à peu près ce langage.
Ce sont 14 fables qui sont présentées ici comme autant de petits tableaux musicaux interprétés par deux chanteurs et un trio piano-violoncelle-clarinette. Les fables, un sujet que les enfants connaissent bien, Valentina, 8 ans, a pu réviser ses classiques.
Le chêne et le roseau, je connaissais pas très beaucoup, je sais plus comment elles s'appellent toutes.
L'occasion aussi de découvrir ou redécouvrir ces fables, car la musique ici porte vraiment le texte, rappelle la pianiste Ernestine Bluteau.
Des hôtes de ces bois.
grâce à la musique qui, en arrière-plan, donne beaucoup de contraste et aide à comprendre finalement l'enjeu de chaque fable. Même si le texte est un peu difficile pour des enfants, là c'est un tout public donc à partir de 8 ans, ça permet de vraiment mieux suivre le fil de chaque fable et qu'est-ce qui se joue entre les personnages.
Des personnages changeants, tantôt lièvre, loup, agneau, cigogne, Marie Blanc, mezzo-soprano et Philippe Scani, baryton, ne mime pas le texte, une mise en scène imaginée par Léna Rondé.
J'avais pas forcément envie d'aller dans l'incarnation, d'aller dans des masques ou des costumes vraiment... Très signifiant par rapport aux animaux ou végétaux, parce que je trouve que les fables, en fait, y a, dans la manière dont c'est écrit par La Fontaine, il y a une espèce de porosité constante entre la parole du fabuliste de La Fontaine et de ses personnages.
Les acteurs évoluent autour d'un meuble en bois situé au centre de la scène. On est à mi-chemin entre le cabinet de curiosité et la chambre d'enfant, avec ce globe terrestre, cette carapace de tortue, mais aussi ces différents tiroirs qui vont s'ouvrir au fur et à mesure.
Il y a des petites bestioles cachées dans les recoins. Et l'idée, c'était aussi de créer des surprises, notamment en pensant au jeune public, mais en pensant à tout le monde, qu'il y a quand même un plaisir de redécouvrir aussi ces fables avec des surprises qui sont dans la scénographie et voilà, un peu de... même des petits moments un petit peu magiques, etc.
Le ton est aussi malicieux ici, comme avec ce tour de passe-passe, une table qui s'ouvre complètement, laissant apparaître un étang miniature.
Regardez bien ma sœur, est-ce assez ? Dites-moi, n'y suis-je point encore ? M'y voici donc, point du tout.
La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf devient ici un ballon de baudruche. Les regards s'illuminent et les enfants sont particulièrement sensibles à ces mondes qui s'animent et ces effets. Madeleine a retenu ce passage de La Tortue et les deux canards.
Quand l'avion est tombé, il y avait de la fumée. Il y avait aussi les objets qui s'envolaient avec le fil, comme ça.
Des effets spéciaux maison et une métaphore pour cette fable qu'Isabelle Aboulker, la compositrice, affectionne.
Avec La Fontaine, on apprend à vivre, c'est tout. Parce que c'est... tellement intelligemment, même l'histoire de la tortue et les deux canards, c'est aujourd'hui que ça peut se passer.
Cette voix de la compositrice rythme aussi le spectacle, elle sort d'un petit magnétophone sur une table de chevet.
J'avais envie que ce soit un peu le fil rouge, son regard, son amour pour ses textes et à quel point c'est des textes qui l'ont accompagné toute sa vie.
D'ailleurs, dans la salle, les spectateurs ne sont pas tous en culotte courte. Alba est venue avec ses petites filles.
Ça marque l'enfance. Après, ça se transforme quand on est adulte. Mais au départ, c'est un souvenir d'enfance.
Un souvenir ravivé et prolongé par cette version lyrique et onirique.
Fable miniature lyrique, c'est le titre de ce spectacle dans le cadre du Festival Off d'Avignon qui se joue jusqu'au 31 juillet au Théâtre des Lucioles, relâche les lundis. Bonjour Cédric Brossard.
Bonjour.
Jusqu'au 31 juillet avec la compagnie ACT, vous mettez en scène 8 novembre d'Akimba à l'entrepôt à 19h20, relâche les lundis aussi, avec le beatboxer Mick Lee, le danseur Andy Adriana Solo et le comédien Achille Gouem qui est également avec nous. Bonjour Achille Gouem.
Bonjour.
Votre compagnie Cédric Brossard, elle est basée à Cahors, dans le Lot, département du sud-ouest de la France. Vous avez déjà monté l'Ivoirien Kofi Kwaoulé, la Canadienne Emma H, le Togolais Gustave Akakpo et maintenant donc le Guinéen Akimba qu'on connaît bien sur RFI hein, puisqu'il est le lauréat du prix RFI Théâtre 2016. Comment est né votre intérêt pour les écritures francophones et notamment les écritures africaines?
Je pense que quand j'ai commencé le théâtre à travers des formations, j'ai d'abord découvert les auteurs vivants. Et assez rapidement, je pense que moi, mon appétence pour le théâtre est venue de cette capacité qu'a le théâtre d'interroger le monde. Et pour le coup, le monde que j'ai envie d'interroger, c'est celui dans lequel je vis. Et quel meilleur média que qu'utiliser les mots des personnes qui vivent à la même période que moi, à la même époque que moi, qui partagent le même monde que moi. Donc c'est vrai que très rapidement, mon approche a été de travailler autour de textes d'auteurs vivants. Et petit à petit, le processus de création s'est mis en place. Et la francophonie est venue parce que, précisément, la francophonie, c'est cette langue en partage. Et l'intérêt pour moi n'est pas que de monter des auteurs vivants, mais de travailler avec les auteurs, de remettre l'auteur au cœur du processus de création. C'est
donc
vraiment
l'ADN
de la campagne.
Avec des résidences d'écriture.
Avec des résidences d'écriture, avec des recherches plateau, même autour d'un texte, parce que... enfin, un texte reste une matière, qu'il soit édité ou pas, il est toujours mouvant. En même temps, comme le disait Streller, avant de vouloir doubler Shakespeare, encore faut-il pouvoir le suivre. Ben, avant de vouloir doubler Akimba, encore faut-il l'inviter. Et moi, ce que je trouve vraiment pertinent, c'est de proposer aux auteurs de cheminer avec nous, de revenir dans ce processus de création, de faire en sorte que l'écriture soit vivante au même titre que l'auteur. Et donc, c'est ce qui fait que forcément... J'ai tendance à monter des auteurs que je rencontre.
Alors, quelle place 8 novembre a-t-il justement dans ce processus de création de votre compagnie ?
Alors, 8 novembre. Initialement, je propose à Hakim d'écrire, donc une commande d'écriture, un texte qui s'intègre dans un projet de trilogie. Ce projet de trilogie, pour le résumer, il commence avec Gustave Acacpo, où on lui propose une commande d'écriture sans lui donner aucune thématique. Et par la suite, on découvre le projet de boucle ferroviaire piloté par le groupe Bolloré en Afrique de l'Ouest. Donc on écrit ce texte et on monte Bolando, roi des Gitans. Et... Tout en travaillant un petit peu sur la matière du spectacle, je lisais « Arrogant comme un Français en Afrique » d'Antoine Glaser, qui parle de la BBC française, son trio de tête, Bolloré, Bouygues, Castel. Et vu qu'on montait un western électro-africain, parce qu'il s'agit de conquête, on est à la conquête de l'Ouest africain, on a eu envie de monter une trilogie de western, la trilogie du CFA. Et l'idée, c'est de proposer à chaque volet à un auteur différent avec lequel la compagnie chemine un temps. Donc, on est en compagnonnage d'auteur avec Hakim sur le texte Track qu'il vient d'écrire, qu'on est en train d'explorer. On en a exploré une première version à l'Univers des mots il y a en 2019. On a exploré une autre version dernièrement à Africologne. Et l'idée de ce cheminement avec les auteurs, c'est vraiment d'explorer aussi leurs œuvres et de monter plusieurs pièces. Comme ça, on se familiarise avec l'écriture, on se familiarise avec l'auteur, l'auteur se familiarise avec une équipe. Et au moment où il aborde l'écriture qui est à proprement parler la commande, il a déjà des habitudes de travail avec nous. Et donc, 8 novembre, ça vient de là. Initialement, c'est un monologue qui s'appelle Le cadavre dans l'œil, qui est une de ses toutes premières pièces. Je crois que c'est sa deuxième pièce. Mmh. Et quand je lui ai dit, écoute, moi j'ai envie de commencer, on va dire par une petite forme, un monologue, il m'a dit, oui, d'accord, mais il faut vraiment que je puisse le réécrire parce que ce texte, moi j'ai trop bougé dans mon écriture.
Voilà, donc le 8 novembre, c'est une date clé hein, dans l'histoire de la Guinée, on va y revenir, mais c'est par l'évocation d'une autre date que débute le spectacle. Nous sommes le 25 août 1958, escale du général de Gaulle à Conakry, accueil de ses Couturiers, réponse du général. Pourquoi commencer le spectacle par cet événement officiel-là, Cédric Brossard ?
Moi, j'ai tendance à penser que c'est une date clé dans l'histoire de la Guinée. C'est aussi une date clé dans l'histoire de la France et dans tout ce qui a pu se passer jusqu'à aujourd'hui. Si on veut appréhender le rapport de la France avec ses anciennes colonies, on ne peut pas ne pas passer du temps sur cette grande tournée des indépendances qu'avait faite De Gaulle à l'époque, où tout était extrêmement huilé, extrêmement calé. Il savait que quand il allait voir Oufouet ou Senghor, ça allait rouler. Et quelque part, ce qui s'est passé là, ça a été une grosse épine. Et cette épine, elle a eu les conséquences qu'elle a eues. Et ensuite, le spectacle en parle. Mais ça reste c'est une petite épine dans la grande histoire.
Voilà, et au passage, à travers donc cette scène d'ouverture, on découvre aussi le talent d'imitateur d'Achille Gouhem, hein, qui fait un Charles de Gaulle. C'est sympathique, vous pouvez nous faire un petit de Gaulle, là ?
Cette communauté, la France, la propose. Personne n'est tenu d'y adhérer.
Voilà, Charles de Gaulle, revu et corrigé par Achille Gouhem. Mais le personnage principal que vous incarnez dans le spectacle, lui, n'a pas de nom. Hein, ce n'est pas un personnage aussi célèbre que de Gaulle, loin s'en faut. Mais c'est quelqu'un qui se retrouve au cœur des événements. Il se souvient, il raconte son histoire et celle de sa famille à ses deux camarades. On ne connaît pas son nom, donc je le répète, mais ce qu'il a vécu est très très lourd. Comment est-ce que vous êtes entré dans ce personnage, Achille Gouhem ?
Allez, entrer dans le personnage est un bien large mot. Moi, je dirais plutôt que c'est la rencontre. C'est la rencontre avec une histoire, c'est la rencontre avec une équipe, c'est la rencontre avec des bribes de souvenirs. Alors, il y a eu un gros travail en amont avec Akimba. Il y a eu le premier texte avec ce personnage qui existait déjà avec un nom, mais qu'on ne savait pas. Et maintenant, il y a le second texte où le personnage n'existe plus, il n'y a plus de nom, mais il faut réussir à raconter ces bribes de souvenirs de quelqu'un. Il faut dire aussi qu'on a tous une vie, on a du vécu. Et les souvenirs qu'évoque ce personnage, certains aspects rencontrent la réalité de tout un chacun par rapport à un contexte bien précis. Donc, c'est un travail fin, subtil, et surtout au niveau de l'émotion.
Est-ce que votre personnage, c'est d'abord un fils ?
Oui, le fils que je suis. Et le fils, certainement, que je ferai aussi demain.
Parce qu'il raconte hein, l'histoire de son père et de sa mère, victimes de la répression du régime de Sékou Touré. Il raconte, alors, on est dans une ambiance un peu à la nuit tombée, dans une sorte de terrain vague de Conakry, pas très loin du pont, du fameux pont du 8 novembre. C'est un peu le QG du personnage, Achille Gouhem, avec ses deux potes.
Dans l'idée, c'est un croc. C'est ce jeune homme-là qui... Déjà sorti de la prison, il rencontre d'autres personnes, il apprend à vivre avec d'autres personnes, la vie actuelle. Et à chaque moment, à chaque étape de sa vie, il y a ces bribes de souvenirs qui reviennent et qui lui renvoient dans cette bulle. Et avec ses amis qu'il connaissent déjà, que ça y est, c'est bon, ça y est, là, il va délirer, ça y est, là, il est parti. Et ensemble... Il accompagne techniquement là-dessus.
Ouais, alors il y a un baril en fer, il y a un bidon de ravitaillement de l'armée, très important. Et puis, Cédric Brossard, il y a une sorte de cube. Alors, je ne sais pas comment vous l'appelez, hein, je ne sais pas une sorte de module, je ne sais pas. Voilà, une sorte de cube qui va être déplacé comme ça d'un tableau à l'autre par les comédiens, par le musicien. Le danseur va s'en servir aussi. Il va devenir tour à tour un mur, une couchette, une prison, une plateforme. Comment est née l'idée de cet objet, Cédric Brossard ? À première vue, on ne dirait pas que c'est un objet si plastique que ça, et en fait, si.
Ouais. Bon, là, c'est la magie du scénographe Patrick Janvier, avec lequel on travaille depuis très longtemps. Donc, Patrick Janvier, qui en ce moment a une scénographie qui tourne à l'Odéon, dans le spectacle d'Aristide Tarnagda, qui a fait donc les deux textes de Shinzo Hanza. C'est Patrick Janvier qui a fait la mise en scène. La scénographie. Il avait scénographié aussi à l'époque Sheda de Dieudonné Nyanguna. Donc, voilà, il connaît un petit peu le festival. Et donc, on travaille avec lui depuis assez longtemps. Et alors, comment est-ce qu'on travaille avec lui ? Moi, je lui donne des images. Il y a ces images du camp Boireau. Pour moi, c'était vraiment important que l'on ressente cet enfermement. Et ce qui ressort dans tous les témoignages qu'on a pu lire du camp Boireau, c'est ce côté extrêmement exigu, ce côté, enfin évidemment en fait, dans un camp d'enfermement, avec la chaleur des tropiques, avec tout ce qu'on peut ressentir. Et en même temps, il était nécessaire d'avoir des plateformes sur lesquelles on puisse danser. Donc en fait, on a fait la liste de tous les besoins, et de là est né ce cube. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que du coup, dans une de nos phases de résidence, on a trouvé dans un jardin un vieux cube en bois qui pourrissait et qui ressemblait à s'y méprendre à ça. Donc il l'a refabriqué en changeant et en réadaptant toutes les dimensions, mais du coup c'est de là qu'est né cet objet magique.
Et il va jouer un grand rôle dans l'occupation du plateau, dans la chorégraphie aussi du danseur de hip-hop qui est également sur scène, Andy Adriana Solo, et dans une moindre mesure, mais tout de même avec le beatboxer Mikli.
J'entends le bavardage de la rue qui crie, la rue qui rit, la rue qui danse, la rue qui babille, la rue qui gratote, la rue qui ressasse, la rue qui rumine, la rue qui, ronflement des moteurs, pédale pour l'échappement, pneus sur le bitume, pied sur l'accélérateur, frein qui grince, frein qui couine, frein qui gratte, des barons, des passants, des tours et volets, des vendeurs, dans le vent, les chahuts des policiers qui règlent la situation. Tantôt leur sifflet siffle, tantôt leurs bras en mouvement discontinu indiquent la direction à suivre. Flux interminable. Ça et là, des taxis bleus en jaune pour s'arrêter, pour prendre un passager, pour déposer un passager, et puis les signes de main. La main qu'on agite pour indiquer l'itinéraire, les clameurs des apprentis, les appels assourdissants des chauffeurs, la foi de bousculade des passagers, la cacophonie des klaxons, cacophonie des portières qui nous portent, odeur de gazaille, d'essence, d'huile, de graisse, évaporation de gaz carbonique. Sur les oreilles de la ville, je crie. Mes cris sont avalés par ces cris, personne ne m'entend. Tout est bouti dans l'urgence. Se dépêcher, rentrer chez soi, vite, courir.
Et très vite, hein, vous nous plongez effectivement avec ce spectacle, messieurs, dans la ville de Conakry. Le lien entre l'histoire de la Guinée et les cultures urbaines, c'était une évidence, Cédric Brossard ?
Ouais, pour moi, c'est vraiment une évidence. Moi, quand je pense Afrique, Afrique francophone, pour le coup, je connais surtout l'Afrique subsaharienne francophone. Je pense à une Afrique jeune et des cultures urbaines. Aujourd'hui, ce sont vraiment les mouvements hip-hop qui ont traversé le monde entier et qui permettent à toute une jeunesse de se réunir autour d'une identité commune. Il n'y a pas une ville au monde où il n'y a pas un graphe, il n'y a pas une ville au monde où il n'y a pas des jeunes qui se retrouvent pour écrire des textes de rap. Donc voilà, oui, pour moi, il y avait vraiment une évidence.
Alors, comment s'est déroulée la création des sons, des bruitages, de la musique, la création chorégraphique aussi ? C'est vraiment un travail collectif ? C'est un travail de plateau ?
Oui, c'est vraiment un travail de plateau. Moi, j'avais des envies de réunir et de créer une équipe, comme le disait Achille, un crew de hip-hop un petit peu. Après, ça faisait aussi partie du jeu, le fait que je ne sois pas chorégraphe, que je ne sois pas non plus musicien, même si je travaille énormément avec la musique live. Et l'idée, c'était vraiment de réunir des artistes qui soient suffisamment à l'aise dans leur pratique pour aussi être force de proposition.
Et donc, à l'écoute, donc ça vous est arrivé à Achille Gouhem de faire des propositions aussi aux beatboxers ou aux danseurs ?
Exact, que ce soit en rythmique, que ce soit dans le mouvement, que ce soit dans le son aussi. Il y a pas mal de textes qu'on a mis en musique ensemble. On a fait une création musicale sur le plateau qu'on a proposé à Cédric.
Mais ces idées-là, elles sont directement inspirées par les mots, par le texte d'Akimba, ou bien c'est votre jeu qui en est la matrice ?
Alors, chacun est déjà constitué de ce qu'il est, de la formation qu'il a suivie, c'est déjà un acquis. Et ensuite, maintenant, il y a ce texte et il y a la rencontre avec ses autres protagonistes. Et c'est allé très vite, c'est allé très vite. Mike Lee, je le rencontre et bim, on commence à swinguer, Adriana arrive, bim, on commence à bouger, c'est très vite allé.
Oui, et même quand Mike Lee sert le thé, le son a un rôle vraiment, vraiment majeur. Hein. Vous sautez sur toutes les occasions pour générer du son. Ça demande d'être tout le temps quand même à l'écoute du Big Boxer, Achille Gouhem, ou c'est un réflexe comme ça qui rentre facilement de se caler l'un sur l'autre.
Je pense que c'est pour ça qu'on fait des résidences de création, et c'est aussi pour ça qu'on passe du temps ensemble. On s'habitue. Donc maintenant, je connais le mouvement de Mike Lee. Quand je bouge, il sait à peu près où je vais. Quand il bouge, juste au regard, ça y est, c'est bon. On a compris le code. Donc ça se passe vraiment à l'intérieur. C'est à force de faire et de refaire. Et on s'est très bien
habitué. Ça devient un réflexe.
Mais voilà.
Alors, on est dans un jeu là aussi. Hein. C'est un petit peu comme le spectacle qu'on évoquait tout à l'heure en première partie d'émission. Très tellurique, hein, marqué par le beatbox, par le souffle de l'écriture aussi. C'est très compliqué de séparer les deux. On est dans une écriture choc, au cordeau, à l'os, qui permet à travers la voix d'Achille Gouhem au spectateur d'entrer à la fois dans l'histoire personnelle du personnage et dans celle de la Guinée. Notamment, vous l'évoquiez tout à l'heure, Cédric Brossard, quand on évoque le fameux camp Boiro.
Boiro, il s'est frappé à des portes métalliques. Des murs crasseux, des ponts de chambre, des horribles odeurs de terre, le puanteur des excréments, des senteurs d'urine, des corvées, la porte, le jacque, la cour du bloc, des pendants serrés dans les menottes, la cabine thermique, des brûlures électriques, des cris, des hurlements, des sanglots, des lamentations, la faim, la faim tenace. Ce massacre des prisonniers, au regard terrifiant de la sentinelle.
L'impérialisme,
à part
le néocolonialisme,
à part
le colonialisme,
à part
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 à part.
Achille Gouhem, comment est-ce que vous avez appréhendé l'écriture d'Akimba ?
Moi, j'aime l'écriture d'Akimba. J'aime raconter des histoires et je trouve que cette histoire me parle. Cette histoire de la Guinée me parle, pas forcément parce que je suis né en Afrique.
Vous n'êtes pas guinéen, hein,
je suis pas guinéen, voilà,
plutôt d'origine camerounaise. Je crois.
Oui, mais je suis né au Cameroun, je suis camerounais. Ensuite, j'ai bien vadrouillé un peu en Afrique. Et l'histoire, c'est important de la raconter si elle vous parle. Cette histoire de la Guinée me parle. Et c'est un plaisir de pouvoir la raconter.
Mais l'écriture d'Akimba, est-ce que c'est une écriture qui est musicale, qui se cale facilement justement avec le beatbox, avec le hip-hop, avec les cultures urbaines ?
Oui, il y a la grosse influence de nos langues maternelles. Et c'est justement la traduction de nos langues maternelles qu'on pose sur du texte qu'on écrit. Donc moi j'entends bien le texte d'Akimba, j'entends bien comment est-ce qu'il respire quand il écrit. Il y a ces consonances-là.
Et vous dégagez, Chilgoem, une énergie quand même assez incroyable. On est à la fois dans la force et dans la sensibilité. Comment faire pour que l'émotion passe en même temps, pour que l'énergie ne nuise pas à l'émotion et pour que l'émotion que vous voulez insuffler à votre texte ne nuise pas justement à votre présence et à ce souffle qu'on peut ressentir sur scène?
C'est un travail de longue haleine. Il n'y a pas de magie, c'est parce qu'on l'a repris, on l'a refait. Et quand on est aussi habité par une entité, je pense qu'on le fait bien.
Alors le camp Boireau, on l'évoquait, hein, c'est l'un des lieux clés de la répression et donc de l'histoire du régime de Sékou Touré. L'autre lieu, c'est donc ce pont, le pont du 8 novembre, référence au 8 novembre 1964, hein, date à laquelle le président Sékou Touré a promulgué une loi cadre qui renforçait son pouvoir personnel et sa mainmise sur l'État guinéen.
Dans la cohue, me revient. Les cordes, les pendus, le corps pendu de mon père sur ce pont, 8 novembre, qu'ils veulent démolir, qu'ils vont saccager, raser, pour bâtir un échangeur, ôter les traces des tourments. Inventez-moi une consolation. Qu'on arrête ce vacarme. Ne me parlez pas de lui. Éventrez le passé. Videz ses entrailles. Sortir les coupables. Qu'on me parle des torts. Qu'on me parle des morts. Du Boireau. Du camp Boireau. De la saloperie du camp Boireau. Sale de la France. Les réunions, ça fuyait partout. Ça pissait partout. Partout, ça vomissait partout. Hey, on s'arrêtait dessus, on marchait dessus, on s'asseyait dessus, on se couchait dessus, on dormait dessus.
Voilà, il y a évidemment beaucoup d'émotions et puis aussi de la réflexion, parce que la pièce, Cédric Brossard, démonte aussi le mécanisme de la dictature, de la répression, de la torture. Il y a une scène assez incroyable à ce niveau-là aussi. Cet enseignement-là, il peut dépasser largement le cas guinéen ?
Oui, moi je pense de toute façon. C'est toute la richesse de travailler sur ces histoires qui sont nos histoires et d'y travailler ensemble. Voilà, Hakim est guinéen, donc il a un enjeu qui lui est propre pour raconter cette histoire. Moi, je suis français, j'ai un autre enjeu, mais ces enjeux se rencontrent pour qu'ensemble, on puisse raconter des histoires qui doivent à tout prix nous concerner tous, bien sûr. Et quelque part, les mécanismes qui sont en branle dans des moments comme ça de l'histoire sont des mécanismes qui doivent, je pense, tous nous concerner.
Merci beaucoup à tous les deux, Cédric Brossard et Achille Gouhem. 8 novembre d'Akimba par la compagnie ACT, c'est donc à l'entrepôt à 19h20, relâche les lundis jusqu'au 31 juillet. Merci à tous de nous avoir suivis. L'info dans un instant sur RFI. On se retrouve demain pour la dernière émission de la saison, toujours ici à Avignon, en direct de l'Hôtel d'Europe, et vous m'en direz des nouvelles.
RFI.